L'abomination de Salem, par Henry Kuttner. Des rats, sans doute, pensa Carson la première fois qu'il entendit de légers bruits dans sa cave. Plus tard, il lui vend des histoires superstitieuses que les ouvriers polonais du moulin de Derby Street se chuchotaient au sujet d'Abigail Prynne, première occupante de cette ancienne demeure. Si aucun villageois ne se souvenait plus de cette vieille sorcière diabolique, des détails troublants sur ses activités foisonnaient dans les légendes morbides qui prospéraient dans le district des sorcières de Salem, comme autant d'herbes folles sur une tombe oubliée. De plus, elles étaient d'une précision déplaisante quant au détestable sacrifice qu'elle offrait à une icône vermivore aux cornes en forme de croissant d'origine équivoque. Les anciens murmuraient qu'Abiprine se vantait d'être la grande pétresse d'un dieu infiniment puissant qui demeurait au plus profond des collines. C'est en effet la vantardise impitoyable de cette vieille folle qui causa sa mort soudaine et mystérieuse en 1692, à l'époque des célèbres pendaisons de la colline du Gibet. Personne n'aimait en parler. Parfois, quelques vieilles édentées marmonnaient avec effroi que les flammes ne l'avaient pas brûlée, car son corps tout entier était rendu insensible par son état de sorcière. Abiprine et sa statue bizarre avaient disparu depuis longtemps déjà. Il était pourtant toujours difficile de trouver des locataires pour sa vieille maison aux pignons décrépits, au second étage en porte-à-faux, et dont les curieuses croisées s'ornaient de vitres en forme de losange. La réputation sinistre de la bâtisse était répandue dans tout Salem. Rien de particulier pourtant ne s'était produit au cours des dernières années qui justifia ces inexplicables racontars. Mais de fait, à peine installé, chaque nouveau locataire déménageait aussitôt. Il donnait généralement de vagues explications peu convaincantes à propos de rats. Et ce fut un rat qui conduisit Carson à la salle des sorcières. Carson avait loué cette maison afin d'y trouver la solitude qui lui permettrait de terminer son dernier livre, impatiemment attendu par ses éditeurs, une nouvelle histoire romanesque à ajouter à la longue liste de ses best-sellers populaires. Or, dès la première semaine, des petits cris et des grattements dans les murs pourris avaient dérangé l'écrivain à plusieurs reprises durant la nuit. Il mit pourtant un certain temps avant de se poser des questions sur l'intelligence de ce rat qui, un soir, détala sous ses pieds dans le vaste hall obscur. La maison était raccordée à l'électricité, mais l'ampoule du hall était petite et ne prodiguait qu'une faible lumière. Le rat n'était qu'une forme noire, déformée, lorsqu'il s'éloigna de quelques bonds pour s'arrêter et, sembla-t-il, l'observer. À un autre moment, Carson aurait sans doute chassé la bête avec un geste menaçant pour se replonger ensuite dans son travail. Mais la circulation de Derby Street avait été particulièrement bruyante ce jour-là et l'avait empêché de se concentrer sur son roman. Sans raison apparente, il avait les nerfs à fleur de peau. De plus, ce rat immobile hors de sa portée semblait l'épier avec un plaisir sardonique. Amusé par cette idée, il avança de quelques pas en direction du rat, lequel détala vers la porte de la cave. Et surprise, cette porte était entrouverte. Il avait dû oublier de la refermer la dernière fois qu'il était descendu à la cave, bien qu'en règle générale, il fut attentif à la fermer, car la vieille maison était pleine de courants d'air. Le rat attendait dans l'encadrement de la porte. Déraisonnablement ennuyé, Carson hâta le pas, forçant ainsi l'animal à dévaler les escaliers. Il alluma la lumière de la cave et observa le rat tapi dans un coin. Celui-ci l'épiait de ses petits yeux enflammés et perçants. Tout en descendant les marches, il eut conscience d'agir comme un fou. Mais son travail l'avait épuisé, et inconsciemment, il accueillait avec joie toute interruption. Il traversa alors la cave en direction du rat, mais celui-ci ne bougea pas, les yeux toujours fixés sur lui. Un étrange sentiment de malaise s'empara alors de l'écrivain. Ce rat n'agissait pas normalement, il le sentait bien, et ses yeux froids et fixes, à peine plus grands que des boutons de chaussures, commençaient à le déranger. Tout à coup, le rat bondit sur le côté pour disparaître dans un petit trou du mur. Carson se surprit alors à sourire. D'un orteil nonchalant, il dessina une croix devant son refuge, bien décidé à y placer un piège dès le lendemain. Le museau et les moustaches ébouriffées du rat pointèrent prudemment. Il fit un pas en avant, hésita, puis recula. Ensuite, l'animal se mit à agir de manière singulière, inexplicable, comme s'il dansait, pensa Carson. Il avançait timidement pour battre en retraite tout aussitôt. Il s'élançait à nouveau pour s'arrêter net et bondir en arrière, comme si la comparaison jaillit dans l'esprit de Carson, un serpent était lové dans le trou de l'animal et l'empêchait d'en sortir. Pourtant, À part la petite croix dans la poussière, rien n'expliquait cette conduite. C'était donc la présence de Carson qui contrariait le rat, car il se tenait à quelques pieds du trou. Quand il avança d'un pas, l'animal recula et disparut dans l'orifice. La curiosité en éveil, Carson prit un bâton et le plongea dans le trou. Et ainsi, son œil, tout proche du mur, détecta quelque chose d'étrange à la dalle de pierre juste au-dessus du trou. Une rapide inspection de l'arête confirma ses soupçons. Cette dalle semblait mobile. Carson l'examina plus attentivement et remarqua un vide qui pouvait servir de prise. Il glissa une main dans l'encoche et tira avec une certaine hésitation. La pierre bougea. Il tira plus fort, et comme s'il était sur pivot, la pierre s'écarta subitement du mur, l'aspergeant de terre sèche. À hauteur d'épaule, un rectangle noir béait dans le mur. Une odeur nauséabonde de pourriture s'en dégagea, forçant Carson à reculer d'un pas. Pensa alors subitement aux contes monstrueux circulant sur Abby Prynne et sur les secrets odieux qu'elle dissimulait dans sa maison. Avait-il découvert la retraite cachée de cette vieille sorcière ? Avant de s'aventurer dans cette gueule obscure, il alla chercher une lanterne. Se baissant prudemment, il enjamba alors la paroi et pénétra dans le passage étroit et fétide. Il balayait du rayon de sa lampe. Carson se trouvait dans un tunnel étroit, à peine plus haut que sa tête, dont le sol et les murs étaient dallés. Après quelques mètres de ligne droite, le passage s'élargit en une chambre spacieuse. Il devait certainement s'agir de la retraite cachée d'Abby Prynne. Cette cachette qui ne l'avait pourtant pas sauvé le jour où la foule en furie avait envahi Derby Street. Lorsque Carson pénétra dans la salle souterraine, il eut la respiration coupée par la surprise. La pièce était fantastique, surprenante. Le sol surtout retint son regard. Le gris neutre du mur cédait ici à une mosaïque de petits carreaux multicolores aux dominantes bleues, vertes et pourpres. En effet, aucune couleur chaude ne s'y trouvait. Des milliers de petits carreaux colorés, pas plus grands qu'une noix, composaient ce prestigieux parterre. La mosaïque semblait suivre un dessin précis, inconnu de Carson. Des courbes pourpres et mauves se mêlaient à des lignes brisées, bleues et vertes, s'entrelaçant de fantastiques arabesques. On y distinguait des cercles, des triangles, un pentacle et d'autres figures moins familières. La plupart de ces lignes et de ces motifs émanaient d'un point précis au centre de la chambre, un disque de pierre noire et mat d'environ 50 cm de diamètre. Le silence était total. Le bruit des voitures qui passaient de temps à autre par Derby Street ne pouvait s'entendre. Dans une alcôve peu profonde, Carson crut apercevoir des signes. Il avança lentement dans cette direction, éclairant de bas en haut les parois de la niche. Ces signes, quels qu'ils soient, avaient dû être tracés sur la pierre, il y a longtemps, car ce qui restait des symboles occultes était indéchiffrable. Carson distingua plusieurs hiéroglyphes partiellement effacés qui lui firent penser à de l'arabe, mais il hésitait cependant. Le sol de l'alcôve consistait en un disque métallique corrodé, environ 2,50 m de diamètre. Carson eut la très nette impression qu'il devait être mobile, mais aucun système d'ouverture n'était apparent. Il réalisa soudain qu'il se trouvait au centre même de la chambre, dans le cercle de pierre noire, au cœur de l'insolite dessin. Une fois de plus, le silence absolu le frappa. Cédant à une impulsion, il éteignit la lampe et fut aussitôt plongé dans une obscurité totale. À ce moment, une idée curieuse lui vint à l'esprit. Il s'imaginait au fond d'un puits, un torrent d'eau tombait d'en haut, près de l'engloutir. L'impression était si forte qu'il crut effectivement entendre un grondement sourd, le mugissement de la cataracte. Profondément troublé, il ralluma la lampe et jeta un regard furtif autour de lui. Le battement s'expliquait bien sûr par les pulsations de son sang, audibles dans le profond silence. Phénomène familier. Mais si l'endroit était aussi calme, l'idée jaillit dans son esprit comme imposée à sa conscience. Cette cave constituerait un lieu de travail idéal. Il n'était pas difficile d'y installer l'électricité, de descendre une table, une chaise et si nécessaire, un ventilateur électrique, bien que l'odeur de moisi du début semblât avoir complètement disparu. Il pénétra à nouveau dans les trois passages et lorsqu'il quitta la cave, ses muscles se détendirent de façon inexplicable. Il n'avait pas réalisé qu'il s'était contracté et imputa cette tension à la nervosité. Une fois à l'étage, il se fit un café bien noir et écrivit à son propriétaire, à Boston, pour lui faire part de sa découverte. Le visiteur observa attentivement le vestibule après que Carson eut ouvert la porte et hocha la tête de satisfaction. C'était un homme grand et maigre, aux sourcils gris d'acier, cachant des yeux perçants. Son visage décharné, aux traits accusés, n'avait pas une ride. « C'est à propos de la salle des sorcières, je suppose ?» demanda Carson de mauvaise humeur. Son propriétaire n'avait pas su se taire. Toute la semaine précédente, Carson avait été dérangé par des amateurs d'antiquités et par des occultistes désireux de jeter un coup d'œil sur la chambre secrète qui avait vu Abby Prine marmonner ses incantations. La patience de Carson était mise à rude épreuve, et il en était venu à envisager sérieusement de déménager dans un endroit plus calme. Mais son obstination innée l'avait décidé à rester et à terminer son roman coûte que coûte, malgré les interruptions. « Je suis désolé, mais l'exposition a fermé ses portes, » dit-il, jetant un regard glacial sur le nouveau venu. L'autre le considéra bouche bée. Puis un éclair de compréhension traversa aussitôt son regard et sortit une carte de visite qu'il tendit à Carson. « Michael Leaf. Un occultiste, sans doute, » demanda Carson. Il poussa un profond soupir. D'après ses constatations, les occultistes étaient les pires. Ils se répandaient en allusions obscures envers des choses innommables et manifestaient un intérêt profond pour les mosaïques de la chambre des sorcières. « Je suis vraiment désolé, monsieur Leif, mais je suis extrêmement occupé en ce moment. Excusez-moi, je vous prie. » Et, peu aimable, il fit mine de rentrer dans la maison. « Un moment !» s'écria Leif, vivement. Sans laisser à Carson le temps de protester, il avait saisi l'écrivain par les épaules et le regardait fixement dans les yeux. Alarmé, Carson recula, pas assez vite cependant, pour n'avoir pas remarqué une expression mélangée d'appréhension et de satisfaction se dessiner sur le maigre visage de Leif. C'était comme si l'occultiste y avait vu quelque chose de déplaisant, mais pas d'imprévu. « Qu'est-ce qui vous prend ?» demanda Carson sur la défensive. « Il n'est pas dans mes habitudes de... Je suis vraiment désolé, » dit Leif, d'une voix profonde et agréable. « Veuillez m'excuser. Je pensais... Ah. Une fois de plus, je vous prie de m'excuser. » Je suis assez ému par tout ceci. En fait, je viens de San Francisco pour voir votre salle des sorcières. Cela vous dérangerait-il vraiment de me la montrer? Je serais heureux de vous dédommager. Pas question, fit Carson avec un geste d'excuse. Il sentait s'établir un lien pervers entre lui et cet homme à la voix bien modulée et plaisante, dont le visage puissant révélait la personnalité magnétique. Non, j'aspire simplement à un peu de calme. « Vous n'avez pas idée à quel point ces visites me dérangent, » poursuivit-il, vaguement surpris de s'entendre parler en termes d'excuses. « C'est un tel désagrément, je regrette presque d'avoir ouvert cette salle. » Leif se pencha avec sollicitude. « Puis-je la voir ?»« C'est très important pour moi. Je porte un intérêt vital à ces choses-là. Je vous promets de ne pas prendre plus de 10 minutes de votre temps. » Personne hésita, puis accepta. Tout en conduisant son hôte vers la cave, il se surprit à lui raconter les circonstances de la découverte de la salle des sorcières. Leif écoutait attentivement, l'interrompant de temps à autre pour lui poser une question. « Laura, savez-vous ce qu'il est devenu ? » demanda-t-il. « Tiens, non, » dit Carson, surpris. « Il doit sans doute se terrer dans son trou. Pourquoi ?»« On ne sait jamais, » dit Leif, tandis qu'il pénétrait dans la salle. Carson alluma. Il avait fait installer l'électricité et à part quelques chaises et une table, rien d'autre n'avait été modifié. Il observait le visage de l'occultiste quand, à sa grande surprise, il le vit s'obscurcir, devenir presque fâché. En deux pas, Leif atteignit le centre de la pièce. Il indiqua la chaise qui se trouvait posée sur le cercle de pierre noire. « C'est ici que vous travaillez ?» demanda-t-il lentement. « Oui, c'est calme. » Je ne pouvais plus travailler en haut, trop de bruit. Ici, par contre, c'est l'idéal. Dieu sait pourquoi j'écris facilement ici. Mon esprit se sent libre, c'est-à-dire dissocié de tout. C'est un sentiment peu banal. Leif acquiesça, comme si les paroles de Carson venaient confirmer ses convictions. Il se tourna alors vers l'alcôve et le disque de métal imbriqué dans le sol. Carson le suivit. L'occultiste s'approcha du mur et passa un index décharné sur les symboles effacés. Il marmonna quelque chose qui n'avait aucun sens pour Carson. Niokta Yarnak. Il fit alors demi-tour, visage sombre et blême. J'en ai assez vu, dit-il doucement. Nous remontons ? Carson, surpris, fit signe que oui, et reprit le chemin de la cave. En haut des escaliers, Leaf hésita, comme s'il ne savait pas comment aborder le sujet. Il finit cependant par demander « Monsieur Carson, cela vous dérangerait-il de me dire si vous avez eu d'étranges songes ces derniers temps ?» Carson le regarda, les yeux rieurs. « Des songes ? Ah, je vois. Eh bien, Monsieur Leaf, je ne crois pas que vous parviendrez à m'effrayer. Vos compatriotes, j'entends par là les autres occultistes avec qui j'ai discuté, ont déjà essayé ce coup-là. »« Ah, vraiment ? Ils vous ont demandé si vous aviez rêvé ?» demanda-t-il, ses épais sourcils relevés. « Plusieurs d'entre eux, oui. » Et vous leur avez répondu ? Non. Puis, comme Leaf se renfonçait dans son siège, le visage soucieux, Carson poursuivit lentement. Bien que, en fait, je n'oserais le jurer. Que voulez-vous dire ? Je pense, j'ai la vague impression d'avoir rêvé ces dernières nuits. Mais comment en être sûr ? Voyez-vous, je ne parviens pas à me souvenir du contenu de ces rêves. Et... il est plus que probable que vos confrères d'occultistes m'aient enfoncé cette idée dans le crâne. « Peut-être, » dit Leaf avec réserve. Il se leva, puis, hésitant, « Monsieur Carson, je vais vous poser une question plutôt présomptueuse. Est-il nécessaire que vous viviez dans cette maison ?» Carson poussa un soupir résigné. « La première fois que cette question m'a été posée, j'ai expliqué que je voulais un endroit tranquille pour travailler à mon roman et que n'importe quelle place conviendrait. Mais ce n'est pas facile à trouver. À présent que j'ai cette salle des sorcières et que mon travail avance si facilement, je ne vois aucune raison de déménager et de risquer ainsi de bouleverser mon programme. Dès que mon roman sera fini, je libérerai cette maison. Vous autres occultistes pourrez alors vous en emparer et en faire un musée ou ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais j'ai l'intention de rester ici jusqu'à l'achèvement de ce roman. » « C'est ça, » dit Leaf en se frottant le menton. « Je comprends votre point de vue, mais est-ce le seul endroit de la maison où vous puissiez travailler ?» Il observa un instant le visage de Carson, puis poursuivit rapidement. « Vous ne me croirez probablement pas. Vous êtes du genre matérialiste. La plupart des gens le sont. Un petit nombre d'entre nous savent cependant que, au-delà et au-dessus de ce que les hommes appellent la science, existe une science supérieure, fondée sur des lois et des principes qui seraient incompréhensibles à l'homme de la rue. Si vous avez lu Machen, vous vous souviendrez qu'il parle de l'abîme qui sépare le monde de la conscience de ce monde en question. Il est possible de franchir cet abîme. La salle des sorcières en est une passerelle. Savez-vous ce que c'est une galerie à écho ? Hein ? Fit Carson interdit. Mais il n'y a aucun... une analogie. Une simple analogie. Un homme peut chuchoter un mot dans une galerie ou dans une cave, et si vous vous trouvez à un endroit précis, même à une trentaine de mètres, vous entendrez son murmure alors que quelqu'un se tenant à 3 mètres ne l'entendra pas. C'est un simple jeu d'acoustique, le son est transmis à un point focal. Ce principe peut très bien s'appliquer à d'autres éléments que le son, à toute impulsion ondulatoire et même à la pensée. Personne essaya de l'interrompre, mais Liv poursuivit. Cette pierre noire, située au centre de la salle des sorcières, est l'un de ses points de focalisation. Le dessin du sol, lorsque vous vous êtes assis dans le cercle noir, vous possédez une sensibilité anormale à certaines vibrations, à certaines puissances spirituelles, une sensibilité dangereuse. À votre avis, pourquoi votre esprit vous semble-t-il si clair lorsque vous travaillez là ? Ce qui est une erreur, un faux sentiment de lucidité. Vous êtes simplement... un instrument, un microphone branché pour enregistrer certaines vibrations pernicieuses dont vous ne pourriez comprendre la nature. Sur le visage de Carson se lisait à présent effroi et incrédulité. Mais vous ne voulez pas dire que vous croyez vraiment ? Leaf se redressa. Ses yeux perdirent toute intensité et redevinrent mornes et impersonnels. Très bien. Mais j'ai étudié l'histoire de votre Abigail Prynne. Elle aussi comprenait la superscience dont je vous parle. Elle l'employait dans des buts diaboliques. La magie noire, comme on l'appelle. J'ai lu qu'elle a maudit Salem jadis, et la malédiction d'une sorcière peut être redoutable. Voulez-vous... Il se leva, se mordillant les lèvres. Voulez-vous au moins me permettre de vous appeler demain ? Carson acquiesça, presque sans le vouloir. Je crains fort cependant que vous ne perdiez votre temps, répondit-il. Je ne crois pas... C'est-à-dire, je n'ai pas... Il s'arrêta en bredouillant sans trouver les mots. Je désire simplement m'assurer que vous... ou autre chose. Si vous rêvez cette nuit, essayez de vous en souvenir. Si vous vous appliquez à reconstituer le rêve à votre réveil, il est fort probable que vous y parviendrez. D'accord. Si je rêve. Carson rêva cette nuit-là. Il s'éveilla juste avant l'aube, habité par un curieux sentiment de malaise. Son cœur battait à tout rompre. Il entendait les galopades furtives de rats dans les murs et en bas. D'un bond, il fut debout, grelottant dans la froide grisaille du jour naissant. La lune pâle s'effaçait doucement dans le ciel nouveau. C'est alors qu'il se souvint des paroles de Leif. Il avait rêvé, pas de doute. Quant au contenu de ce songe, c'était un autre problème. Il avait beau essayer, impossible de se rappeler. Il lui restait simplement une très vague impression de course effrénée dans l'obscurité. Il s'habilla rapidement et, énervé par le calme trop parfait de la vieille demeure, sortit acheter un journal. Mais à cette heure matinale, les magasins étaient encore fermés. Il se mit alors à la recherche d'un camelot. Tout en marchant, un sentiment inexplicable l'envahit, un sentiment de familiarité. Il avait déjà parcouru ce chemin. Le profil des maisons, la ligne des toits lui étaient familiers. Pourtant, et c'était là que résidait le mystère, il n'avait pas souvenance d'avoir jamais parcouru cette rue. Paresseux de nature, il ne s'était jamais promené dans ce quartier de Salem. Impossible cependant de se débarrasser de cet extraordinaire sentiment de réminiscence, qui allait croissant au fur et à mesure de sa promenade. Il atteignit un coin et, sans penser, tourna à gauche. L'étrange sensation grandit encore. Il poursuivit lentement sa marche pensif. C'était certain, il avait suivi cette route auparavant. Très probablement l'avait-il même parcouru plongé dans de profondes rêveries, de sorte qu'il n'avait pas été conscient de son trajet. C'était là l'explication, pas de doute. Lorsqu'il prit Charter Street, un sentiment déplaisant de malaise s'agita en lui. Salem s'éveillait. Avec le jour, d'impassibles travailleurs polonais le dépassèrent en hâte pour se rendre à l'usine. De temps à autre, une auto rompait le calme du matin. Devant lui, une foule compacte s'était rassemblée sur le trottoir. Il hâta le pas, conscient d'une catastrophe imminente. Avec un choc, il constata qu'il était arrivé à hauteur du cimetière de Charter Street, l'ancien rendez-vous des morts, à l'odieuse renommée. Il se fraya un chemin aussitôt à travers la foule. Des commentaires chuchotés arrivèrent jusqu'à lui. Un dos bleu et massif s'interposa soudain. Il regarda par-dessus les épaules du policier et le spectacle horrible lui coupa la respiration. Un homme était appuyé contre la grille du vieux cimetière. Il portait un costume bon marché, de mauvais goût, et étreignait les barreaux rouillés dans une crispation telle que les muscles ressortaient sur le dos poilu de ses mains. L'homme était mort, et sur son visage, levé vers le ciel à un angle fou, s'était figée une expression d'horreur indicible. Ses prunelles blanches étaient convulsées en un mouvement hideux. Sa bouche s'était figée en un rictus amer. Un homme à côté de Carson tourna vers lui un visage blême. « Dirais qu'il crevait de peur, » dit-il d'une voix rauque. « Je voudrais pour rien au monde voir ce qu'il a vu. Pff, quel visage !» Carson recula machinalement d'un pas, glacé par un frisson incoercible. Il se frotta les yeux, mais la vision de cette face morte et tordue refusait de le quitter. Secoué et tremblant légèrement, il revint sur ses pas. Son regard glissa involontairement sur les pierres tombales et les caveaux éparpillés du vieux cimetière. Personne n'y avait été enterré depuis plus d'un siècle, et les tombes recouvertes de lichens, avec leurs chérubins joufflus et leurs urnes funéraires, semblaient exhaler d'antiques miasmes. Qu'est-ce qui avait pu faire mourir cet homme de peur ? Personne respira profondément. D'accord, ce cadavre constituait un horrible spectacle, mais de là à tolérer qu'il ébranla tant ses nerfs, il ne pouvait à aucun prix. Son roman en souffrirait. De plus, se disait-il sombrement, cette affaire ne nécessitait aucune explication. La victime était apparemment polonaise, appartenant à ce groupe d'émigrés qui demeure près du port. En longeant cette nuit le cimetière, endroit sur lequel d'affreuses légendes circulaient depuis près de 300 ans, ses yeux abusés par la boisson avaient dû voir des fantômes n'existant que dans son esprit superstitieux. Ces Polonais étaient d'ailleurs réputés peu stables sur le plan émotionnel, sujets à l'hystérie collective et doués d'une imagination prolifique. Ainsi, la fameuse panique des immigrés de 1853, où trois maisons de sorcières avaient été complètement brûlées, était née de l'affirmation confuse et hystérique d'une vieille femme qui prétendait avoir vu un étranger habillé de blanc enlever son visage. Que pouvait-on attendre d'autre de tels gens, pensa Carson. Cependant, il ne parvint pas à retrouver son calme et ne rentra chez lui que peu avant midi. Lorsqu'à son retour il trouva Liv qui l'attendait, il fut content de le voir et l'invita cordialement à entrer. Liv était grave. Avez-vous entendu la dernière de votre amie, Abigail Prynne ? Demanda-t-il sans préambule. Carson, qui s'apprêtait à verser de l'eau gazéifiée dans un verre, s'arrêta net. Après un long moment, il pressa le levier et fit gicler le liquide dans le whisky. Il tendit le verre à Leaf, en prit un pour lui, sec, avant de répondre à la question. J'ignore de quoi vous parlez. A-t-elle... Que lui reproche-t-on ? S'enquit-il d'un air faussement dégagé. J'ai consulté les archives, dit Leaf, et découvert qu'Abigail Prynne a été enterrée le 14 décembre 1690 dans le cimetière de Charter Street, un pieu planté dans le cœur. Mais qui est-il ?
Rien, dit Carson d'une voix blanche.
Eh bien ?
On a ouvert et saccagé sa tombe, c'est tout. Le pieu a été arraché, on l'a retrouvé à proximité. Il y avait des traces de pas tout autour de la fosse, des traces de souliers. Avez-vous rêvé la nuit dernière, Carson ?
Leaf avait décoché cette question à brûle-pourpoint et ses yeux gris fixaient l'écrivain avec dureté.
« Je ne sais pas, » répondit Carson, confus, en se frottant le front.
« Je ne me souviens de rien. Je me suis rendu au cimetière de Charter Street ce matin. »
« Oh, dans ce cas, vous avez sûrement entendu parler de l'homme qui... »«
Je l'ai vu, » interrompit Carson en frissonnant.
« Cela m'a bouleversé. »
Il avala son whisky d'un trait.
Leaf l'observait.
« Bien, » fit-il. « Êtes-vous toujours décidé à rester dans cette maison ?»
Carson déposa son verre et se leva.
« Pourquoi pas ? » rétorqua-t-il. « Voyez-vous une raison pour que je la quitte, hein ?»«
Après les événements de cette nuit... »«
Après quels événements ? » ?»« Une tombe a été pillée. Un Polonais superstitieux est mort de frousse en voyant les voleurs. Et alors ?»«
Vous essayez de vous convaincre vous-même, » répondit Leaf. « Mais au fond de vous, vous connaissez, vous devez connaître la vérité. »
Carson, vous êtes devenu l'instrument de puissance gigantesque et terrible. Pendant 300 ans, Abby Prynne s'est morfondue dans son cercueil, vivante, en attendant que quelqu'un tombe dans son piège, la salle des sorcières. Peut-être prévoyait-elle le futur en la construisant, peut-être prévoyait-elle qu'un jour ou l'autre, quelqu'un finirait par aboutir dans cette chambre infernale et serait la proie du dessin de mosaïque. Ce dessin vous a eu, Carson. Il a permis à cette horreur toujours vivante de franchir l'abîme entre la conscience et la matière, d'entrer en rapport avec vous. L'hypnotisme est un jeu d'enfant pour un être muni de pouvoirs effroyables d'Abby Prynne. Elle pouvait sans difficulté aucune vous forcer à vous rendre à son tombeau pour y arracher le pieu qui l'emprisonnait. Elle pouvait tout aussi facilement effacer le souvenir de cet acte de votre mémoire, de sorte que vous ne vous souveniez pas même comme d'un rêve.
Carson s'était levé.
Une étrange lueur brillait au fond de ses yeux.
« Pour l'amour de Dieu, mon vieux, savez-vous ce que vous dites ?»«
De Dieu ?» s'écria Leaf dans un rire perçant. « Du diable, plutôt. »« Le diable qui menace Salem en ce moment. » »«
Oui, Salem court un danger, un terrible danger. Les hommes, les femmes, les enfants de la ville, maudits par Abby Prynne lorsqu'ils l'allièrent à un pieu, et comprirent qu'ils ne pouvaient pas la brûler. » J'ai parcouru des archives secrètes ce matin et je suis venu vous demander, pour la dernière fois, de quitter cette maison. Avez-vous terminé ?
S'enquit froidement Carson.
Très bien, je veux rester ici. Vous êtes soit fou, soit ivre, mais vous n'arriverez pas à m'impressionner avec vos discours.
Partiriez-vous si je vous offrais $1,000 ?
Non plus alors, 10 000 ? Je dispose de fonds considérables.
Non, au diable ! Rugit Carson, soudain furieux.
Tout ce que je veux, c'est un peu de paix pour terminer mon roman. Je ne parviens pas à travailler nulle part ailleurs. Je n'ai pas envie de... Je veux...
« Je m'attendais à cela, » reprit Leaf sous un calme, la voix empreinte d'une curieuse note de sympathie. « Vous ne pouvez pas partir d'ici, mon vieux. Vous êtes pris au piège, et il est trop tard pour vous en sortir. Aussi longtemps que le cerveau d'Abby Prynne vous contrôle par la salle de sorcière,
Le pire, c'est qu'elle ne peut se manifester qu'avec votre aide. Elle draine vos forces vitales, Carson. Elle se nourrit de vous comme un vampire. Vous êtes fou, dit Carson à bout. J'ai peur. Le disque de métal dans la salle des sorcières. J'ai peur de lui et de ce qu'il recouvre. Abiprine adorait d'étranges divinités, Carson. Et ce que j'ai lu sur le mur de cette alcôve est un avertissement. Avez-vous jamais entendu parler de Nyotka? Carson secoua la tête impatiemment. Les fouilla dans une poche et en retira le chiffon de papier. J'ai copié ceci d'un livre de la bibliothèque Kester, un livre appelé Necronomicon. Il a été écrit par un homme qui fouillait si profondément dans les secrets défendus que les autres le disaient faux. Tenez, lisez ceci. Carson lut l'extrait, les sourcils froncés. Pour les hommes, il est le prince des ténèbres, ce frère des anciens, appelé Nyokta, la chose qui ne devrait pas être. Il peut être appelé à la surface de la terre par des crevasses et des cavernes secrètes, et des sorciers l'ont vu en Syrie, ainsi que sous la tour noire de Leng. Des grottes Tang de Tartarie. Il a répandu la terreur, apportant mort et destruction parmi les tentes du Grand Khan. Seule la croix potencée, l'incantation de vache virage et l'élixir de Tikkun peuvent le repousser dans les antres ténébreux d'infamie voilée où il demeure. Leaf fixa calmement les yeux embarrassés de Carson. Vous comprenez, à présent ? Des incantations et des élixirs ! S'exclama Carson en lui rendant le papier. La bonne blague ! Au contraire, les occultistes et les initiés connaissent cette incantation et cet élixir depuis des milliers d'années. Moi-même, j'ai déjà eu l'occasion de les utiliser par le passé, en certaines circonstances. Et si je ne me trompe à ce sujet, il se tourna vers la porte, les lèvres pincées en une ligne blême. De telles manifestations ont pu être mises en échec jadis. Le problème consiste à obtenir l'élixir. C'est très difficile à trouver. Mais j'espère... Je reviens tout de suite. Pouvez-vous me jurer de ne pas aller à la salle des sorcières avant mon retour ? Je ne promets rien, dit Carson. Au revoir. Un mal de tête sourd l'oppressait, qui ne cessait de grandir depuis qu'il avait envahi sa conscience. Il éprouvait de légères nausées. Il reconduisit Leaf à la porte et attendit sur les marches du perron. Il lui répugnait de rentrer à l'intérieur, tandis qu'il regardait l'occultiste descendre en toute hâte la rue. Une femme sortit de la maison voisine. Elle l'aperçut, s'arrêta, interdite, puis se répandit soudain en une tirade aiguë et furieuse. Personne se tourna vers elle et la regarda, étonnée. Ses élancements rendaient sa migraine insupportable. La femme approchait, le menaçant de son poing grassouillet. « Pourquoi est-ce que vous faites peur à ma Sarah ? » cria-t-elle, la figure rouge de colère. « Pourquoi est-ce que vous lui faites peur avec vos bêtes trucs, hein ?» Personne s'humecta les lèvres. « Je suis désolé, » dit-il lentement. « Tout à fait désolé. Je n'ai pas effrayé votre Sarah. J'ai été absent toute la journée. De quoi a-t-elle eu peur ?»« Cette chose brune, elle courait dans votre maison, » m'a dit Sarah. La femme s'arrêta, pantelante. Ses prunelles s'agrandirent. De la main droite, elle fit un geste singulier, l'index et l'annulaire pointés vers Carson. Le pouce passait au-dessus des autres doigts. « La vieille sorcière !» Elle recula aussitôt, marmonnant en polonais d'une voix effrayée. Carson rentra chez lui. Il se versa une rasade de whisky, réfléchit, puis l'écarta sans y toucher. Il se mit alors à arpenter le salon, se frottant de temps à autre le front de ses doigts chauds et secs. De vagues et confuses idées se bousculaient dans son esprit. Ses tempes fiévreuses battaient. Finalement, il descendit à la salle des sorcières et resta là sans pouvoir travailler. Son mal de tête devenait plus supportable dans le calme mort de la chambre souterraine. Après quelques minutes, il s'endormit. Combien de temps dura cet assoupissement ? Il n'aurait pas pu le dire. Il rêva de Salem. Il rêva d'une chose noire, floue et gélatineuse qui fonçait à toute vitesse dans les rues. Cette gigantesque amibe d'un noir de jet engloutissait sur son passage hommes, femmes qui tentaient de s'enfuir en criant. Il vit aussi une tête de mort qui l'épiait, un visage desséché, rétréci où seuls les yeux semblaient vifs, embrasés d'une lumière diabolique et pernicieuse. Il s'éveilla enfin, s'assit d'un bond. Il crevait de froid. Un silence total régnait. À la lumière de l'ampoule électrique, la mosaïque vert et pourpre semblait se tordre et se contracter vers lui. Illusion qui disparut lorsqu'il sortit tout à fait des paysages brumeux de ses rêves. Il regarda sa montre. 2 heures. Il avait dormi tout l'après-midi et une bonne partie de la nuit. Il se sentait étrangement faible et la lassitude le retenait immobile sur son siège. Toute son énergie semblait lui avoir été ôtée. L'humidité de la pièce pénétrait son cerveau, mais sa migraine avait disparu. Son esprit était parfaitement clair, dans l'expectative, comme s'il attendait que quelque chose arrivât. Un mouvement tout proche attira son attention. Une dalle du mur bougeait. Il entendit un léger grattement et, lentement, les 3 rectangles de la cavité noire s'élargirent en un carré. Quelque chose se tapissait là, dans l'ombre. Cette chose se mit alors à ramper vers la lumière sous le regard horrifié de Carson. On aurait dit une momie. Pendant une intolérable et interminable seconde, cette pensée rongea le cerveau de Carson. On aurait dit une momie. C'était un corps squelettique d'un brin de parchemin. Il ressemblait à un squelette sur lequel on aurait tendu la dépouille d'un grand lézard. Il remua, avança en se traînant, et ses longs ongles griffèrent bruyamment la pierre. Il arriva dans la salle des sorcières et la lumière blanche révéla sans pitié son visage impossible, dont seules les orbites brillaient d'une vie charnelle. Carson distingua l'arête dentelée de son dos brunâtre et racorni. L'écrivain restait assis, médusé. Une peur insondable le terrassait, l'empêchant de faire tout mouvement. Il semblait pris dans les maillons d'une paralysie fantasmatique, dans laquelle son cerveau, seul témoin conscient, refusait de transmettre la moindre impulsion nerveuse à ses muscles. Il se disait frénétiquement qu'il rêvait, qu'il n'allait pas tarder à se réveiller. L'horreur desséchée se leva. Une minceur squelettique et se dirigea vers l'alcôve où le disque de fer était encastré dans le mur. Le dos tourné à Carson, elle s'arrêta. Un murmure sec et rauque se fit aussitôt entendre dans le silence de mort. Carson aurait voulu hurler, mais il ne le pouvait. L'épouvantable murmure se poursuivit dans un langage venu d'ailleurs, et comme en réponse, un tremblement à peine perceptible secoua le disque de métal. Il frémit et s'éleva lentement tandis que, triomphante, la monstrueuse créature levait ses bras frêles. Le disque devait avoir 30 cm d'épaisseur, mais à présent, tandis qu'il continuait à se dresser au-dessus du niveau du sol, une odeur insidieuse pénétra dans la pièce. Une odeur fauve, vaguement reptilienne et nauséabonde. Le disque s'élevait inexorablement et un petit doigt noir apparut sur le rebord. Carson se souvint tout à coup de son cauchemar, de cet être gélatineux qui filait dans les rues de Salem. Il essayait de toutes ses forces de rompre les chaînes de sa paralysie, en vain. La chambre s'obscurcit en une sombre vertige s'approcha pour l'engloutir. La pièce tout entière bascula. Le disque de fer montait toujours. L'horreur ratatinée avait gardé ses bras levés dans un mouvement de bénédiction blasphématoire. La noirceur s'écoulait toujours de son abîme, dans un mouvement d'amibe. Un bruit vint interrompre le murmure rauque de la momie, des pas précipités. Du coin de l'œil, Carson vit un homme s'engouffrer dans la salle des sorcières. C'était Leaf, l'occultiste. Ses yeux brûlaient, dans un visage d'une pâleur mortelle. Il bondit vers l'alcôve d'où se libérait le monstre noir. Avec une lenteur surnaturelle, la chose desséchée se retourna. Leaf tenait une Crux Ansata d'or et d'ivoire dans la main gauche. Sa main droite pendait sur le côté. Sa voix déferla dans la pièce, grondante et autoritaire. De petites gouttes de transpiration perlaient sur son visage blême. Yana Kadishtu Nilgri, Stelbsnakna Nyokta, Kiarnak Ftelegor. Magique et irréelle, les syllabes éclatèrent, reprises en écho par les parois de la voûte. Leaf s'avançait à pas lents, brandissant la croix hansée. Le monstre noir surgit de dessous le disque de fer. Le disque fut projeté sur le côté et une grande vague de noirceur iridescente, ni liquide ni solide, une effarante masse gélatineuse se répandit en direction de Leaf. Sans interrompre sa marche, il fit un rapide mouvement de la main droite et jeta un petit tube de verre dans la direction de la chose noire qui l'engloutit. Le monstre informe s'arrêta. Il hésita, indécis, puis recula. L'air fut aussitôt envahi par une écœurante odeur de putréfaction. Sous les yeux de Carson, de grands lambeaux brûlés se détachèrent de la chose noire, se ratatinant comme sous l'action d'un acide. L'infecte créature entama une retraite liquissante, laissant derrière elle d'affreux morceaux de chair noire. Un pseudopode s'étira de la masse centrale et, tel un immense tentacule, enserra la momie et l'entraîna dans la fosse. Un autre tentacule s'empara du disque de fer, le traîna sans effort sur le sol, et tandis que le monstre disparaissait, le disque retomba à sa place avec un fracas infernal. La pièce tout entière dansait autour de Carson. Il fut pris d'une affreuse envie de vomir. Par un effort surhumain, il parvint à se lever. Soudain, la lumière pâlit puis disparut. L'obscurité l'entoura. Le roman de Carson ne fut jamais terminé. Il brûla le manuscrit mais continua pourtant à écrire, bien qu'à dater de ce jour, aucune de ses œuvres ne fut jamais publiée. Ses éditeurs secouaient la tête et se demandaient pourquoi un aussi brillant écrivain de romans populaires s'était si soudainement engoué pour le surnaturel et l'effroyable. « C'est de l'excellent travail, » dit un jour l'éditeur à Carson en lui rendant son roman. « Le dieu noir de la démence. » En son genre, c'est remarquable, mais trop horrible et morbide. Personne ne le lira, Carson. Pourquoi n'écrivez-vous plus le genre de roman d'avant, comme ceux qui vous ont rendu célèbre ? C'est alors que Carson rompit son vœu de ne jamais parler de la salle des sorcières. Il raconta toute l'histoire, espérant trouver une certaine compréhension. Hélas, une fois le récit terminé, son cœur se serra lorsqu'il aperçut le visage de l'autre. Un visage compatissant, mais sceptique. « C'était un rêve, n'est-ce pas ?» demanda l'homme, et Carson rit amèrement. « Oui, un rêve. » « Cela a dû terriblement vous impressionner. Les rêves sont parfois comme ça. Bah, »« Vous oublierez avec le temps, » prédit-il, et Carson acquiesça. Il sut alors avec certitude qu'il ne parviendrait jamais qu'à éveiller le doute quant à son équilibre mental. Il ne parlait plus de cette chose gravée pour toujours dans son cerveau, de ce monstre qu'il avait vu dans la salle des sorcières après son long sommeil. Avant de fuir, pâle et tremblant, cette chambre avec Liv Carson avait jeté un rapide coup d'œil derrière lui. Les lambeaux racornis et brûlés qu'il avait vus se détacher de ce monstre blasphématoire et absurde avaient manifestement disparu. Seules des taches noires restaient sur la pierre. Sans doute, qui sait, Abby Prince en était-elle retournée en enfer ? Son dieu inhumain, lui, s'était retiré dans les gouffres cachés, au-delà de la compréhension humaine, repoussé par les forces puissantes des magies anciennes ordonnées par l'occultiste. Mais la sorcière avait laissé un souvenir derrière elle, une trace odieuse qu'avait aperçu Carson dans ce dernier regard en arrière, dépassant du bord de disque de fer, levé dans une sorte de salut ironique. Il avait vu une main griffue et desséchée.